les sentiers du bonheur.
Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance.
Chers amis auditeurs, bonjour. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, pour cette première chronique de l'année, prenons le temps tout d'abord de souhaiter à chacun des auditeurs une bonne et heureuse année 2024. Pour vous, nous espérons le meilleur, le bon, le bien, et tout cela avec la bénédiction de Dieu, dont nous connaissons la générosité et l'amour inconditionnel. Bonne année à toutes et à tous.
Je me joins à toi pour adresser également mes meilleurs vœux à tous les auditeurs des Sentiers du Bonheur, ceux qui écoutent en direct, le samedi matin très tôt, et ceux qui écoutent en podcast plus tard dans la journée ou durant la semaine. Mon souhait, c'est qu'avec l'aide du Christ, chaque défi de 2024 participe à notre croissance personnelle et spirituelle, pour que nous puissions déjà avoir un avant-goût du règne de Dieu dans nos vies.
Merci Eric pour ces vœux. Généralement, quand on souhaite la bonne année, les personnes espèrent d'abord être en bonne santé. La santé est précieuse. Sans elle, c'est tout notre univers qui s'écroule.
C'est vrai. Être et rester en santé dépend de beaucoup de facteurs et nous avons la main sur plusieurs d'entre eux. Il y a bien sûr les facteurs génétiques sur lesquels on ne peut pas agir, mais nous pouvons intervenir sur bien d'autres éléments qui participent à notre santé comme l'exercice physique, l'alimentation, le repos. Souhaiter la bonne santé, c'est donc en quelque part encourager l'autre et s'encourager aussi à agir sur ces leviers de la santé.
Restons justement sur un de ces points que tu as cité, l'alimentation comme facteur de santé, et parlons des pistes que propose la Bible pour une alimentation saine.
Oui, dans les Écritures, il existe plusieurs passages pour guider les humains dans leurs choix alimentaires. Il ressort de ces passages que Dieu a un souci évident quant à la qualité de nos aliments et avec des prescriptions, notamment sur l'abstention du sang et de la graisse animale, ainsi que l'exclusion de certaines viandes, il propose une approche de l'alimentation qui mérite notre attention.
La Bible explique-t-elle les raisons de ces interdictions?
Elle en donne d'abord et surtout des raisons d'ordre spirituel. Dans Genèse chapitre 9, verset 4, à une époque très ancienne, on lit que Dieu dit à Noé et à sa famille, avec qui il refondait l'humanité après le déluge, « Vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. » Il y a dans cette recommandation l'idée que le sang est porteur de vie et que celle-ci doit être respectée parce qu'au final, elle n'appartient qu'à Dieu.
Alors, dans cette recommandation, c'est davantage le respect de la vie qui prédomine, plutôt que les préoccupations diététiques.
L'intention était d'engager les humains dans la maîtrise de leurs instincts, de nutrition notamment, d'en oublier ces instincts en leur donnant une dimension spirituelle. C'est avec ces normes sur l'alimentation que s'est installée la tradition de recueillement avant le repas, en demandant la bénédiction de Dieu avant de manger.
Ce qu'on appelle généralement le bénédicité.
Oui, on reconnaît en priant avant le repas que cette nourriture n'est pas seulement le fruit de notre travail, mais aussi un don de Dieu.
Je reviens à l'abstinence de sang dans l'alimentation. On sait aujourd'hui que le sang présente de vrais risques sanitaires.
Même si le texte biblique ne mentionne pas clairement cet aspect, les prescriptions de la Bible à ce sujet visaient aussi à réduire les risques d'infection alimentaire à une époque où la science médicale n'était pas au niveau que nous connaissons aujourd'hui. Avec le recul que nous avons maintenant, on peut dire que la Bible voyait juste, que Dieu a pourvu au déficit de connaissances avec ses conseils. Donc, même quand on ne maîtrise pas tous les aspects des recommandations divines, il vaut toujours mieux les suivre.
Et qu'en est-il des viandes non comestibles présentées comme impures dans le livre du Lévitique? Je pense au porc, aux fruits de mer ou au cheval, par exemple.
En considérant le chapitre 11 du livre du Lévitique, qui dresse la liste des animaux purs et impurs, on pourrait aussi dire comestibles et non comestibles, on remarque que les animaux classés comestibles sont ceux qui sont facilement identifiables. Ces animaux présentent tous deux caractéristiques distinctives, bien claires, que tout individu peut reconnaître sans difficulté. Les animaux aquatiques comestibles ont écailles et nageoires, les terrestres sont des ruminants quadrupèdes avec le sabot fendu. Les oiseaux, quant à eux, en plus de posséder deux ailes pour voler et deux pattes pour marcher, ne doivent pas être carnivores.
La précision est importante puisqu'il y a des oiseaux qui ont des ailes mais qui ne volent pas, il y a des oiseaux qui ont des pattes et qui ne s'en servent pas non plus. Donc c'est important. Sont donc exclus aussi tous les animaux qui ne correspondent pas clairement à leur groupe bien distinct. Je pense par exemple à la tortue, qui vit à la fois sur terre et dans l'eau.
Oui, ou encore au requin, qui a des nageoires mais qui n'a pas d'écailles. Le cheval, quadrupède et herbivore, mais qui n'est pas un vrai ruminant et qui a le sabot entier. En fait, on remarque que ces animaux classés purs ou comestibles dans la Bible sont ceux pour lesquels il y a le moins de risques sanitaires possibles. Et puis, aux raisons sanitaires, on peut aussi voir dans ces restrictions une importante raison pédagogique.
Laquelle précisément ?
Étant conduit à sélectionner sa nourriture entre le pur et l'impur, le croyant est ainsi amené à se rappeler de la qualité de vie que Dieu désire pour ses enfants. Cette démarche le conduit donc à s'approcher de la qualité de vie optimale que Dieu propose parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Quand on considère cette approche, se nourrir n'est plus seulement la satisfaction de besoins primaires, mais peut aussi être un acte d'adoration. Prendre soin de sa santé avec une alimentation saine débouche ainsi sur un développement spirituel.
Tout de même, dans le Nouveau Testament, il y a ce passage dans lequel on lit qu'après une controverse avec les pharisiens, Jésus a purifié tous les aliments.
C'est dans Marc chapitre 7 qu'on trouve ce passage. Le contexte montre qu'il s'agissait d'un différend non pas sur les aliments comestibles ou non, mais sur les rituels d'ablution traditionnels des Juifs du 1er siècle. Aux prescriptions de la Bible, les pharisiens avaient ajouté leurs propres prescriptions en leur donnant une valeur identique, voire même supérieure aux ordonnances de la Bible.
C'est ce que Jésus a dénoncé ?
Et oui, dans Marc 7, Jésus a censuré cette volonté de mettre la tradition au même niveau que l'Écriture. Je lis ce qu'il dit au verset 9. « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Il a aussi mis l'accent sur un point fondamental. Quelque bonne que soit la prescription, elle ne prend de sens que si le cœur de l'individu est engagé dans la démarche, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et toutes les dérives humaines. Ainsi, manger sainement ne change pas mon cœur. En revanche, en connectant le fait de se nourrir sainement à la relation à Dieu, j'ouvre mon cœur à recevoir tout ce que Dieu prévoit pour la qualité de vie de ses enfants, pas seulement pour le boire et le manger, puisque ce n'est pas là l'essence du règne de Dieu, mais aussi sur tous les aspects du quotidien. Et sur tous ces aspects, Dieu propose toujours la meilleure qualité.
D'une façon générale, la spiritualité biblique vise à concerner l'ensemble de notre vie. Elle ne cloisonne pas les différents aspects de l'existence. Elle conçoit le bonheur et la santé, puisque c'est notre sujet, comme un ensemble d'interactions pour lesquelles il est primordial de suivre les recommandations divines. Amis auditeurs, en vous souhaitant une bonne santé pour 2024, nous espérons continuer notre marche avec vous en suivant les conseils divins sur les sentiers du bonheur. À bientôt.
Il nous a demandé de le proclamer, nous a donné une raison de vivre.
Vainqueur du péché, il vit à jamais, Jésus nous donna sa liberté.
Nous qui avons reçu ce don parfait, ce salut, il nous faut le partager. Portons le flambeau, élevons son nom, nous chantons cet évangile de pardon. Quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant. Quelle bonne nouvelle.
que d'élever la voix, dire à la terre entière ce qu'il avait. Quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant. Ressuscité et vivant à jamais, malgré d'autres opinions, toujours je le croirai. C'est un Dieu compatissant, un Dieu encourageant, et quand j'ai besoin de lui, il est présent. Quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant, et nous l'annonçons sans relâche, pour que le monde sache, nous le chantons, crions, partout à chacun. Dieu est venu, quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous, quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant.
C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui? Demandez-le, il vous sera envoyé gracieusement.
Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
Voici notre adresse.
Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin CEDEX 2.
Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.